Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Et comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires. Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. On vous le disait, comme tous les mercredis soirs depuis déjà maintenant plusieurs décennies, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On est ensemble pendant une heure pendant laquelle on va décrypter l'actualité sociale, nationale et internationale, bien sûr. Mais comme d'habitude, Rémi, on commence par nos traditionnels rendez-vous et annonces.
Eh oui, salut David, salut tout le monde. On va commencer, donc, comme tu viens de le dire, par les annonces. Et demain, c'est la librairie La Griffe dans le 7e qui invite toutes les personnes, tous les groupes et toutes les orgas à venir discuter de l'organisation du Printemps Libertaire. Un gros morceau ici à Lyon qui va pas tarder à arriver et qui a lieu chaque année. Le Printemps Libertaire, c'est un grand festival qui rassemble toutes les mouvances anti-autoritaires, contre les oppressions et les répressions, les injustices sociales à se rassembler. Et au programme, des présentations de livres, des débats, des concerts, du théâtre, de la poésie, de la bouffe, des rencontres, des ateliers, des conférences, des projections, tout ça. Le but étant de nous rassembler pour pour mettre en commun nos forces et nos moyens. Et de notre côté, on compte bien préparer des animations dans notre librairie autogérée La Plume Noire. On va commencer avec un petit peu de promo, hein, cette librairie qui se situe au 8 rue Diderot dans les pentes de la Croix-Rousse et qui est ouverte tous les samedis de 15h à 19h si tout se passe bien, sauf rassemblement. Et puisqu'on parle de rassemblement, on va parler du rassemblement qui aura lieu ce samedi. Juste avant, je reviens sur l'organisation du Printemps Libertaire. Donc ce sera demain, jeudi 23 janvier à 19h à la librairie La Griffe, au 5 rue Sébastien Griffe. Et donc on parlait de rassemblement ce samedi, et le rassemblement pour la liberté pour la Palestine, il aura lieu ce samedi de 15h à 17h, place Bellecour. Bien qu'une trêve ait été signée dimanche dernier entre le Hamas et Israël, et que des otages aient été échangés, il y a toujours des épidémies, de la famine, des blessés privés de soins en Palestine. Il y aura donc un nouveau rassemblement ce samedi, et les mots d'ordre de celui-ci, ce sont comme souvent le cessez-le-feu permanent, la fin du massacre, la fin du blocus à Gaza, Israël hors de Gaza et de Cisjordanie, la libération aussi du docteur Oussam Abou Safia, le jugement des criminels de guerre et la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, puisque nos pays occidentaux sont toujours impliqués dans ce conflit au Moyen-Orient. Le rassemblement aura donc lieu place Bellecour ce samedi entre 15h et 17h. Et puis mercredi prochain, le 29 janvier, c'est le collectif Notav contre la ligne Lyon-Turin qui se réunit à La Griffe, encore une fois, pour une réunion d'information sur les prochaines actions à mener. Le collectif a prévu des actions festives auprès des habitants du tracé de la ligne, mais avec une approche politique radicale à l'encontre du projet. Si les militantes et militants invitent du monde à cette réunion publique, c'est qu'il y a encore pas mal de points à régler au niveau logistique comme au niveau du type d'action à entreprendre. Donc si ce sujet vous motive et si vous avez des compétences à faire valoir pour soutenir cette lutte, vous êtes les bienvenus pour venir assister à cette réunion. Le collectif propose d'ailleurs plusieurs ressources sur internet comme le site lyon-turin-toutattaché.eu ou stopaulyon-turin-toutattaché.fr/ressources si vous voulez plus d'informations. Ce sera mercredi prochain à 19h à la librairie La Griffe, mais n'hésitez pas à vous tenir informé parce que le lieu peut changer à tout moment, au dernier moment en plus. Et puis pour finir, on va se projeter un peu plus loin, mais on veut quand même vous en parler. C'est l'UCL Lyon, donc nous, hein, on vous invite à un débat sur la résistance en Ukraine. Le sujet est passé un petit peu sous les radars ces derniers temps, avec ce qui se joue dans le reste du monde. Mais de nombreuses problématiques anti-impérialistes sont encore au cœur de ce sujet. Et à cette occasion, nous avons invité un militant syndical qui est de retour de Kharkiv en Ukraine. Et avec lui, nous discuterons des solidarités concrètes à mettre en place et des perspectives anti-autoritaires à développer. Voilà, donc on vous en reparlera, hein, nos camarades, probablement la semaine prochaine seront plus précis à ce sujet, mais vous pouvez noter la date, ce sera le 4 février aux alentours de 19h à La Plume Noire, notre librairie autogérée qui se situe au 8 rue Diderot.
Dans le premier arrondissement de Lyon. Voilà pour ce qui est des rendez-vous et des annonces pour commencer cette émission Idées Noires. Bien évidemment, on l'a dit, on va faire le tour de l'actualité sociale et politique nationale et internationale. Difficile de faire cette émission sans revenir sur la nomination officielle, l'entrée en fonction de l'autre côté de l'Atlantique de Trump comme nouveau président des États-Unis et toutes les inquiétudes et toutes les odeurs nauséabondes nationalistes et réactionnaires qui vont avec et les sombres nuages qui vont planer sur la planète. On va bien sûr, y compris celles qui sont portées par son acolyte Elon Musk, on va bien sûr commencer cette émission par revenir sur notre analyse par rapport à cette situation en s'appuyant sur ce que les camarades américains nous en disent. Mais avant ça, on va faire une première petite pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet et consacrer la première partie de cette émission à ces sombres nouvelles qui nous viennent de l'autre côté de l'Atlantique. On va retrouver le collectif Achab, qui nous chante Black Block pour commencer cette émission. Tout ça en référence aux événements de Seattle, bien sûr. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Trump, Musk et leur monde, que plein de Black Blocs se déplanchent chez eux.
On n'a pas de visage, pas de nom, ni genre, ni âge, ni religion. Vient de partout et de nulle part, notre deuil et notre étendard. Qu'on soit seul, qu'on soit sans, qu'on soit mille, on vient pour défier l'ordre civil. On n'a peur de rien ni de personne, quand notre chant résonne. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune et noire, notre vie en rose et noire. Et on fait bloc. Comme on ne veut plus vivre à genoux, on est prêt à rendre coup pour coup. On charge en groupe et on se disperse. On prend le vieux monde de vitesse. On s'éclaire au feu de l'incendie. On respire le gaz, on fait du bruit. On disparaît comme on est venu. Jamais prié, jamais vu. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir. Notre étoile jaune et blanche, notre vie en rose et noire.
Black Bloc, enquête signée, Franck Génozo, Francis Forger.
Black Bloc, Mili, Zadiste, autant de groupes anarchistes qui partagent la haine du capitalisme, de l'État et des policiers.
Je veux dire à tous ces casseurs, ces Black Bloc, ces amis de Monsieur Coupa, ils trouveront la plus grande détermination.
On garde la mémoire des vaincus, pas de quartier pour reprendre la rue. On crée les réseaux.
populaire, un pour tous, tous insurrectionnaires. Et un jour les autres nous suivront, et ce jour nous casserons les prisons. Nous bâtirons un monde nouveau, tous libres, tous frères, tous égaux. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune et noire, notre vie en rose est noire, mais notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune et noire, notre vie en rose est noire.
Toutes ces choses-là, on a pu retrouver des maquettes, on a retrouvé des burins, on a retrouvé quelques étendards. Ils ont tout laissé sur place.
Le collectif ACAB sur ce 102.2 de Radio Canu avec ce morceau Black Bloc, toujours dans cette émission Idées Noires. Idées Noires, l'émission du groupe local de Lucelle, l'Union Communiste Libertaire. Et on vous l'a dit, premier gros sujet, on va faire un petit tour de l'autre côté de l'Atlantique pour voir les nuages sombres qui s'annoncent avec bien sûr l'arrivée au pouvoir de nouveau de Trump et son acolyte Elon Musk.
Oui, ce sont nos camarades communistes libertaires américains de Black Roses Rosa Negra, l'organisation cousine de l'UCL aux USA, on pourrait dire, qui a publié le 16 janvier un texte qui fait le point sur les luttes actuelles aux États-Unis, notamment l'élection de Donald Trump, bien évidemment. Il et elle ont développé une analyse conjoncturelle de la situation outre-Atlantique, et cette analyse, elle prend en compte, c'est pour ça qu'elle s'appelle conjoncturelle, les forces mouvantes temporaires à un instant T, et elle les met en lien avec les structures permanentes de la société, et ça permet de comprendre et d'envisager un peu mieux la réalité matérielle des rapports de force dans lesquels nous, en tant que libertaires, nous souhaitons peser politiquement. Voilà, ça c'était pour le cadre théorique de cette analyse. Mais dans les faits, et parmi les faits actuels qu'identifient Black Roses Rosa Negra, il y a bien évidemment le massacre en cours en Palestine, le changement climatique et les incendies géants de Californie, et évidemment l'élection de Trump à la tête du pays. Tous ces événements récents ont bien évidemment modifié les rapports de force, et pas toujours dans le bon sens. Ces différents éléments que je viens de citer, ils forment ce que l'orga américaine appelle une polycrise, c'est-à-dire une crise qui s'étend dans plusieurs domaines, domaines dans lesquels l'UCL et nos camarades d'outre-Atlantique sont impliqués, c'est-à-dire l'écologie, la lutte contre le patriarcat et la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme. Et cette polycrise, comme il et elle l'appellent, elle montre une chose, ce sont les fissures de l'Empire américain. Il s'agit justement des points de basculement dans les différents secteurs sociaux qui pourraient devenir des opportunités pour nous, parce qu'il s'agit parce qu'en fait, il déclenche des vagues de mobilisation dans notre camp au sens large. Et la première crise aux États-Unis, c'est la crise interne qui touche à la fois le pouvoir d'achat, la santé et le travail, des points qui font écho avec ce qui se passe ici en France. Mais il y a une spécificité aux États-Unis, et cette spécificité, c'est l'endettement des ménages. Par exemple, le nombre de personnes qui cumulent plusieurs emplois pour rester à flot n'a jamais été aussi élevé depuis 2001, soit quasiment 25 ans, c'est-à-dire en fait, une génération entière. Il existe aussi des coupes budgétaires là-bas dans l'éducation publique, chez le personnel soignant, dans les services de garde d'enfants, de soins aux personnes âgées, dans les écoles, les foyers et les hôpitaux, etc., etc. Et tout ce travail, qu'il s'agisse des soins, d'éducation ou de travail reproductif, si cher à Donald Trump, Elon Musk ou même chez nous à Macron, ce travail-là, il continue de peser de manière disproportionnée sur les épaules des femmes, et en particulier des femmes de couleur, ce qui renforce ainsi la domination sexuelle et raciale. Et le constat de nos camarades sur les sources de ces crises, il est sans appel, c'est l'incapacité des institutions et des acteurs traditionnels. Ils parlent ici évidemment des politiciens, qu'ils soient démocrates ou républicains. Eh bien, c'est leur incapacité à traiter efficacement ces questions. Elle a engendré une crise de légitimité envers les élites politiques et économiques de l'État américain. D'ailleurs, selon un récent sondage de l'Institut Gallup, la confiance du public dans le gouvernement national américain, le système judiciaire et même l'armée, ce qui est plutôt étonnant, eh bien, cette confiance, elle s'est effondrée aux États-Unis et c'est une première depuis à peu près 2 décennies. Résultat, selon le sondage annuel de la santé mentale de l'American Psychiatric Association, les adultes américains sont de plus en plus anxieux, notamment en raison de l'actualité, c'est le cas pour 70% d'entre elles et eux, et le taux de dépression a atteint des sommets records. En plus de ces crises internes qu'on vient de développer, hein, il y a aussi des crises externes. En premier lieu, il y a la situation en Palestine. La Palestine, c'est devenu un petit peu un portail à travers lequel un grand nombre de personnes se mobilisent, soutenues par des milliards de dollars d'aide de l'administration Biden. Israël mène une guerre implacable contre la bande de Gaza depuis octobre 2023 et ça entraîne des niveaux stupéfiants de destruction, de mort, de démembrement, de déplacement, de dépossession, de famine et de torture. En plus de son règne de terreur sur Gaza, Israël a lâché ses soldats et ses colons sur la Cisjordanie, occupée dans le cadre d'un accaparement de terres d'une violence inouïe, puisque le texte de nos camarades nous explique que ces derniers temps, Israël a volé plus de terres en Palestine en 2024 qu'il n'en avait fait au cours des 20 dernières années. Mais en réaction, et on peut s'en féliciter, les Palestiniens de Palestine et de la diaspora ont été à l'avant-garde d'un mouvement anti-guerre mondial sans précédent. La solidarité internationale avec la lutte palestinienne a mobilisé des millions de personnes aux États-Unis et dans le monde entier, sous diverses formes, comme par exemple des marches de masse dans les villes, des grèves sur les campus universitaires, des démissions de protestations de responsables gouvernementaux et jusqu'à des résolutions de cessez-le-feu adoptées par les conseils municipaux et les Nations Unies. Tout cela, ça a ravivé un mouvement anti-impérialiste aux États-Unis qui n'avait pas connu une telle ampleur depuis la lutte contre la guerre en Irak. Et à l'instar du mouvement anti-guerre du début des années 2000, le mouvement de solidarité avec la Palestine a radicalisé un grand nombre de jeunes militants et a ravivé les luttes étudiantes sur les campus universitaires américains à travers tout le pays. La lutte de solidarité à travers la Palestine a également relancé des débats critiques sur une série de questions clés pour la gauche américaine, telles que la nature de l'impérialisme, la libération nationale, l'internationalisme, le colonialisme de peuplement, ainsi que le sionisme. Et cela a touché tout un tas de secteurs outre-Atlantique, comme les organisations étudiantes, qu'on a vu très mobilisées ces derniers mois, et aussi les syndicats américains, qui nous ont semblé un peu plus silencieux sur le sujet. Mais quand même, ça a marché. J'en veux pour preuve, par exemple, les 48 000 travailleurs universitaires de l'Université de Californie, qui en mai 2024 ont lancé une grève politique, qui est un événement extrêmement rare aux États-Unis, pour exiger que le système universitaire américain se défasse des avoirs financiers liés à Israël et aux fabricants d'armes. Et par-dessus ça, le mouvement étudiant américain aussi sur les campus a réussi, dans certains cas, à négocier des concessions avec ces mêmes administrations universitaires. L'autre événement majeur de cette conjecture politique, ça a évidemment été l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon nos camarades américains, Donald Trump a réussi à consolider son contrôle quasi total sur le Parti républicain en exploitant le mécontentement généralisé que beaucoup ressentent à l'égard du statu quo et des politiciens de carrière, encore une fois, hein, qu'ils soient républicains ou démocrates, et avec un mélange de rhétorique politique et religieuse populiste, libertarienne et ultra-conservatrice, en particulier sur l'immigration, Trump, Musk et d'autres milliardaires ralliés à sa cause ont réussi à mettre à l'écart les sections relativement modérées, disent nos camarades, entre gros guillemets, du Parti républicain. En réponse, la campagne de Kamala Harris a cherché à présenter les démocrates comme préservant le centre, en mobilisant les slogans de « ne pas revenir en arrière », alors même que leur propre rhétorique, qui était pourtant dure sur l'immigration et sur la loi et l'ordre, dérivait encore plus vers la droite. Aux US, comme ici, hein, quand on élit le centre pour échapper à l'extrême droite, eh bien, ce même centre finit par appliquer des politiques conservatrices, qu'on le veuille ou non. L'évolution de la rhétorique des démocrates vers la droite a clairement montré que les démocrates avaient adopté une stratégie visant à attirer délibérément les électeurs républicains les plus modérés, qui étaient mécontents du premier mandat de Donald Trump. Et donc, alors que le parti démocrate s'est toujours contenté de répondre du bout des lèvres aux préoccupations de la classe ouvrière, des femmes et des personnes de couleur, cette élection a montré que la majorité des électeurs américains souhaitaient des réformes progressistes, mais qui ne font plus confiance aux démocrates pour les mener à bien et donc ont voté pour son adversaire Donald Trump. Mais l'impact potentiel de l'élection de Trump pourrait influer sur l'avenir du mouvement syndical qui continue malgré tout à montrer des signes de force et de militantisme en mettant en évidence son potentiel historique de modification de l'équilibre des forces. Par exemple, rien que l'année dernière, le nombre de travailleurs et de travailleuses impliqués dans des arrêts de travail a augmenté de 141%, donc a plus que doublé, et ce principalement en raison de grèves. Donc les Américains, mine de rien, eux aussi finalement se mettent en grève via leurs syndicats. Et il existe donc encore des Américains et des Américaines qui comptent lutter via ces syndicats. Au cours de ces grèves très médiatisées qui ont eu lieu, la grande majorité du public s'est rangée du côté des travailleurs et des travailleuses plutôt que du côté des capitales, dont 75% du côté des travailleurs de l'UAW, qui est la United Auto Nation, donc un syndicat de salariés de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'agriculture. Voilà, donc on voit que plusieurs composantes de la société américaine sont prêtes à se battre et à battre le pavé, comme le concluent les camarades outre-Atlantique de Black Rose Rosa Negra. La gauche organisée, sous la forme d'organisation politique anticapitaliste, reste fragmentée et fragile. Néanmoins, elle s'est montrée capable de se faire entendre. D'autres organisations politiques de gauche dure, entre guillemets, se sont développées au sein du mouvement de libération palestinienne, où la gauche organisée dans son ensemble a joué un rôle important. La résurgence de la lutte en solidarité avec la Palestine et le militantisme naissant du mouvement ouvrier ont montré où la gauche révolutionnaire, y compris les anarchistes organisés, a le potentiel d'être la plus efficace, c'est-à-dire là où il y a une lutte de masse unificatrice et l'opportunité de développer une organisation profondément enracinée. Voilà donc pour l'analyse de nos camarades nord-américains sur la situation dans leur pays, si elle semble plus déprimante que jamais à première vue, est finalement source d'espoir pour les luttes à venir. Et puisqu'on parle des USA, on va faire un petit détour par X, anciennement Twitter, David, et évoquer son patron, donc Elon Musk. Elon Musk, puisque ce dernier a fait non pas un, mais deux saluts fascistes devant presque toute la planète le jour de l'investiture de son président chouchou Donald Trump. Parce que oui, hein, faut bien le dire, c'était des saluts nazis. Non, il n'avait pas une crampe au bras. Non, il n'avait pas envoyé des cœurs à la foule. J'ai jamais eu l'occasion, moi, personnellement, d'envoyer des cœurs à une foule, hein, mais si je devais le faire, j'aurais probablement pas le bras tendu, les doigts alignés, ni un rictus de haine, ni les dents serrées. Donc j'imagine que c'était pas simplement ça. Mais bon, alors, même que d'authentiques néo-nazis ont bien reconnu et salué ce geste, des conservateurs, des fans de milliardaires et des centristes universalistes, hein, on va faire un petit coucou à Raphaël Enthoven au passage, préfèrent y voir un geste au mieux anodin, au pire maladroit. Et pourtant, ce qu'on voit là, c'était bien un homme riche et puissant qui envoie un signe fort à ses partisans, un homme qui sait que quoi qu'il arrive, non seulement il ne sera pas inquiété pour un tel geste, mais en plus se permet de le faire pour rallier tous les fascistes d'Occident qu'on sait qu'ils se développent à vitesse grand V, notamment en Europe.
Et qu'il soutient ouvertement et financièrement y compris, quand on voit comment il a pu soutenir l'AFD en Allemagne par exemple dernièrement.
Exactement, j'allais y venir, hein, parce que pour donner du contexte, ça sert à rien de sortir les 3 minutes ou les 10 secondes précédents ou suivant son geste pendant ce discours. Pour comprendre qu'Elon Musk est bien un fasciste authentique, il suffit de rappeler ses positions politiques. Hein. Il est connu pour des sorties transphobes, des sorties suprémacistes blanches. Il pense qu'il est lui-même l'avenir de l'humanité. Il est main dans la main, comme tu viens de le dire, David, avec l'AFD, qu'il a soutenu politiquement, financièrement. Donc l'AFD, on le rappelle, l'extrême droite allemande la plus dure. Voilà. Et puis il relaie aussi des posts complotistes et antisémites sur le réseau qu'il a racheté, donc Twitter, hein, pour en faire finalement la plus grande benne à ordures du monde. Voilà, donc et puis puisqu'on parle de cette grande benne à ordures qui est devenue Twitter, on va parler du mouvement de désertion du réseau X Twitter, et on va faire un petit tour très rapide des médias et organisations qui ont décidé de quitter X. Côté médias indépendants, on peut lister par exemple Mediapart ou nos camarades de Rapport de Force, CQFD, Au Poste ou encore Basta. Et du côté des orgas, il y a Greenpeace France, le syndicat national des journalistes CGT, Solidaires Informatique, aussi d'ailleurs plusieurs unions départementales de Solidaires et de la CGT, la CIMAD, Action Justice Climat et j'en passe, on va pas faire la liste entière, ce serait trop long. Mais globalement, c'est pas très grave, parce que si vous les suivez sur Twitter, vous pouvez les retrouver sur Mastodon ou Blue Sky, qui sont pour l'instant des endroits que tous les fanatiques fachos tech bros de la Silicon Valley n'ont pas encore investi. Et c'est l'occasion aussi de vous annoncer que l'UCL Lyon possède un compte Mastodon et un compte récemment créé sur Blue Sky. Donc si vous faites partie de cette vague de départ de l'ancien oiseau bleu, vous pouvez nous y retrouver toujours sur le même nom, à savoir UCL Lyon.
Voilà, on va faire une nouvelle pause musicale dans cette émission Idées Noires. Une pause musicale fort à propos, puisqu'on va retrouver les Inner Terrestrials. Les Inner Terrestrials qui, sur un morceau bien à propos, qui dépeint le cauchemar en route qui nous vient des États-Unis, mais aussi d'ailleurs, nous parle d'un White Nightmare. Et on verra ensuite que en France aussi, les antifascistes ont des soucis à se faire.
A white nightmare. Germanic roots. Swastika shaved heads, still toe cap boots. Their warped ideal is a Nazi nation born of loss and bleak frustration. A white nightmare. Grows and hatred spreads. Before you realised it had begun, the world is under threat from Nazi scum. So on your feet now, do what's right. It's time to spread the love, but block out all the lies.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission du groupe lyonnais de l'Union Communiste Libertaire. On est ensemble jusqu'à 21h, et après un petit détour par les États-Unis, on va revenir sur l'actualité politique en France, toujours sur le même sujet, hein, sur le sujet de la lutte antifasciste.
Et oui, malheureusement, là aussi, le fascisme monte, la peste brune se fait entendre et de sombres nuages pèsent sur ceux qui luttent, qui s'opposent à ces logiques dévastatrices, à l'image de ce qui est arrivé à un militant lyonnais antifasciste qui a été condamné pour outrage à 4 mois de prison avec sursis probatoire, des travaux d'intérêt général et un stage de citoyenneté. Alors, quel a été l'objet du délit pour ce militant antifasciste ? Bah, tout simplement, le port d'un t-shirt, comme quoi il y a du souci à se faire sur la liberté d'expression et d'opinion. Un t-shirt qui pourtant arborait la très grande marque, le logo de la très grande marque capitaliste américaine Nike, sauf que sous le logo de cette marque Nike était assorti le mot la police. Et ce t-shirt Nike la police, eh ben il y a eu il lui a été reproché de l'avoir porté dans l'enceinte du tribunal de Lyon. Alors, pour rappeler les faits, l'affaire remonte au 4 juillet 2023. C'était en marge de comparution immédiate à Lyon lors des révoltes qui avaient suivi la mort du jeune Naël. Vous vous rappelez ce jeune homme de Nanterre qui a été assassiné par la police. Et ben, notre militant antifasciste lyonnais était venu assister en soutien et en solidarité aux audiences d'une vingtaine de personnes qui étaient présentées ce jour-là au tribunal de Lyon au lendemain d'une nuit d'émeute. Et il avait navigué entre les salles, et sur donc son t-shirt, il y avait ce fameux message équivoque, le logo Nike suivi de la police, que certains ont interprété comme nique la police. Et du coup, il a été jugé pour outrage et rébellion, et il a été donc finalement condamné uniquement sur des faits d'outrage à 4 mois de prison avec sursis, comme on le disait, probatoire, 150 heures de travaux d'intérêt général et un stage de citoyenneté à ses frais. Et en plus, il doit verser 250 € à chacun des 4 policiers qui s'étaient portés partie civile pour, retenez-vous, pour préjudice moral, parce que bien sûr, ils ont été choqués et traumatisés par la vue de ce t-shirt sous leurs yeux dans le tribunal. Alors bien sûr, c'est une peine qui colle au réquisitoire de la procureure de la République, qui avait demandé, elle, une peine de 6 mois avec sursis, ainsi que l'obligation de s'acquitter de 105 heures de travaux d'intérêt général et d'un stage de citoyenneté. Ce que la procureure avait demandé. On peut rappeler notamment que l'interpellation de ce militant antifasciste avait été relativement rocambolesque, puisque s'il a été poursuivi, c'est qu'il avait été interpellé le jour même des faits, c'est-à-dire le 4 juillet 2023, dans une véritable scène de confusion, comme le rapporte avec précision le média Rue 89, hein, puisque c'était en pleine plaidoirie d'un avocat où le militant au t-shirt à la virgule avait été vigoureusement ceinturé par un policier et sous une nuée, bien sûr, de téléphone qui filmait la scène. Un autre policier s'était interposé pour calmer le jeu et avait demandé au militant antifasciste de sortir. Et l'audience avait donc été interrompue, la salle évacuée, et puis ça avait donné lieu à un face-à-face tendu, mais sans heurts, qui s'était tenu dans la salle des pas perdus. Et dans la cohue, un des membres des forces de l'ordre avait d'ailleurs avait insulté à plusieurs reprises des manifestants pendant que celle-ci scandait bien évidemment le fameux et le incontournable « Tout le monde déteste la police ». Alors, lors du passage en procès, notre camarade antifasciste lui a contesté certains éléments de l'affaire qui voulait le poursuivre pour rébellion, puisque aucune des vidéos qui ont été montrées et qui ont servi à sa défense ne permettait de montrer que il y avait eu des violences de sa part lors de son interpellation, et que aucun des agents qui s'étaient portés partie civile n'était venu en plus porter la contradiction pour justifier leur dire ce jour-là. Visiblement, l'accusation s'était même emmêlée les pinceaux dans les dépositions des policiers. Tout ça, ce qui a fait qu'il a été uniquement retenu contre lui ce fameux, non pas le caractère de rébellion, mais le caractère d'outrage pour la nature de son t-shirt, considérant que c'était bien sûr le nique la police était une provocation ouverte du militant antifasciste, et que c'était un slogan politique qui était porté dans le tribunal. Et la procureure l'a accusé donc du coup d'avoir voulu se servir du tribunal comme une tribune, en rappelant qu'il ne devait pas y avoir, que la politique devait rester en dehors des tribunaux.
Bien sûr, les tribunaux n'ont rien de politique. Hein.
Ouais, bien sûr, les tribunaux et la police n'ont rien de politique, tout à fait, notamment dans les rendus de justice qu'ils donnent. Et puis justement, si la politique devait rester en dehors des tribunaux, visiblement, d'après ce que rapporte toujours le 89, de politique, il en a été bien question ce 4 juillet 2023 lors de son arrestation, puisque le média a repéré un tatouage issu du folklore nazi au bras de l'un des agents qui a justement interpellé notre camarade. Tiens, ça, des fois que ce serait simplement du folklore et pas de la politique. Mmh. Et puis un autre policier qui était présent ce jour-là n'est pas totalement inconnu, puisqu'en fait le deuxième agent qui a interpellé ce militant antifasciste, c'est Jonathan Guéry. Jonathan Guéry, c'est qui ? Eh ben, c'est l'élu député Rassemblement National du Beaujolais en juillet dernier.
Mais ça n'a rien de politique.
Mais ça n'a rien de politique, ça non plus. Et comme par hasard, c'est ces deux policiers qui, ce jour-là, alors que notre camarade assistait simplement à cette audience en solidarité avec des inculpés, l'ont ceinturé et ont décidé de porter plainte contre lui, choqué par son t-shirt comme préjudice moral. Deux bons bougres, l'un qui porte des tatouages du folklore nazi sur les avant-bras dans un tribunal de police. Mais là, on ne le poursuit pas, peut-être parce que tout simplement, on ne peut pas lui les faire enlever, et puis l'autre qui se fait élire un an plus tard député du Rassemblement National. Alors bien évidemment, on voit bien que tout est politique, comme tu le disais si bien Rémi, qu'on a le droit aujourd'hui, on a la liberté de ne pas aimer la police. C'est un droit qu'on peut défendre et qu'on peut revendiquer, notamment quand on sait que celle-ci, elle tue et elle assassine impunément à de nombreuses reprises, et que les violences policières, malheureusement, ne cessent d'être en hausse dans notre pays. En tout cas, vouloir poser la problématique de la police et des violences policières est quelque chose de tout à fait légitime. Et derrière cette histoire, tout simplement, il faut y voir bien sûr une vengeance. Il faut y voir bien sûr une vengeance, puisque notre camarade n'est pas inconnu des services de police, et qu'il avait été précédemment inculpé dans l'affaire dite des 7 antifascistes de Lyon. Un dossier bancal où le parquet s'était auto-saisi, où des vices de forme et des erreurs avaient été multiples, et où 4 militants antifascistes qui avaient été alors pourtant placés 6 semaines en détention provisoire avaient été tout simplement relaxés et avaient été libérés. Et bien sûr, ce fiasco qui avait marqué le tribunal de Lyon, qui voulait criminaliser à l'époque des militants antifascistes, il était resté comme un goût amer dans la bouche de la police avant tout, qui avait poussé le parquet à les poursuivre. Et on comprend bien ces militants pourquoi ces deux agents de police, ce jour-là au tribunal, qui, vous l'avez bien compris, n'étaient pas du tout motivés par des motivations politiques, ont été choqués et ont tenu à ceinturer et à porter plainte pour outrage et même soi-disant rébellion contre notre camarade, qui quand même a été lourdement condamné, on le rappelle, lourdement condamné, puisque peine de prison avec sursis qui pèse sur sa tête, et on sait ce que ça peut représenter quand on est un militant antifasciste et révolutionnaire, des heures de travaux d'intérêt général, et puis un stage de citoyenneté où il va certainement pas rigoler tous les jours, qu'il va devoir en plus financer à ses frais, et puis aussi l'argent à verser pour dommages moraux à la flicaille locale qui l'a interpellé. Voilà, à suivre, on vous tiendra au courant, parce que bien sûr, notre camarade antifasciste et ses avocats ont dit qu'ils allaient bien sûr faire appel de la décision et continuer à revendiquer le droit à la liberté d'opinion et d'expression, et revendiquer le droit à dire qu'on déteste la police. Voilà, ça c'était la première info qu'on voulait donner, qui semble presque anecdotique, mais qui finalement loin de là, parce qu'elle nous montre les basses manœuvres de la justice instrumentalisée par l'extrême droite et la criminalisation de ceux qui dénoncent aujourd'hui les violences policières, et qui dénoncent aussi la fascisation de la société, que ça soit celle de la police, bras armé et répressif de l'État, mais aussi de la justice qui défend ses chiens de garde.
Mais ça n'a rien de politique, encore une fois.
Mais bien sûr, ça n'a rien de politique. Celle-ci reste en dehors des tribunaux. Autre chose qui ne peut que nous inquiéter, autre menace qui pèse sur les militants antifascistes, les déclarations récentes du début de semaine de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, puisque le ministre de l'Intérieur a affirmé en début de semaine, lors d'une conférence de presse qui était organisée, par le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, qu'il envisageait la dissolution du groupuscule qu'il a qualifié d'ultra-gauche, la jeune garde antifasciste, puisque lors de cette conférence, il était interrogé sur les soi-disant violentes des mouvements d'extrême-gauche. Alors, comme par hasard, en faisant un petit peu de recherche, la journaliste qui l'a interrogé sur ces questions-là, elle est membre du collectif Némésis, collectif soi-disant féministe, en tout cas féminin, mais certainement pas féministe, lié aux jeunesses identitaires, donc à l'extrême droite, à cette droite nationaliste et fascisante, qui a interpellé le ministre lors de cette conférence sur les soi-disant donc violences d'extrême gauche. Et Bruno Retailleau a pris la question tout à fait au sérieux et a déclaré, pour le citer, que la dissolution est un instrument, notamment avec la jeune garde, qu'il faut regarder. Alors, effet d'annonce ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, c'est un sacré coup de pression qui est mis sur les militants antifascistes de la jeune garde. On se rappelle déjà la criminalisation dont avait fait l'objet son ancien porte-parole, Raphaël Arnaud, lorsque celui-ci s'était présenté dans une des circonscriptions de Nîmes comme candidat du Nouveau Front Populaire aux élections dernières, et où un déchaînement de violence médiatique réactionnaire et nauséabonde s'était abattu sur lui, sur le scandale candidat à la députation fiché S pour atteinte à la sûreté de l'État. Et ben on voit comment aujourd'hui la jeune garde est toujours dans le collimateur des forces réactionnaires et en particulier du ministère de l'Intérieur et du pouvoir, puisque donc du coup Gérard Retailleau n'hésite pas à affirmer ouvertement qu'il serait prêt à dissoudre ce collectif, qui n'est absolument pas comme ça a été amené un groupuscule d'ultra-gauche violent, mais qui est tout simplement un collectif de lutte antifasciste et qui joue un rôle tout à fait fondamental et pertinent aujourd'hui dans l'information, dans la dénonciation et dans l'autodéfense populaire face aux actions des nervis fascistes. Voilà, donc là aussi, la peste brune continue doucement mais sûrement son chemin, et l'extrême droite ne cesse de monter, et avec elle de criminaliser tous ceux qui se mettent en travers de son chemin.
Et du coup, on peut réouvrir peut-être une petite page internationale, à moins qu'on veuille lancer une musique dès maintenant.
Non, peut-être, on verra peut-être après, on va peut-être en effet réouvrir une page internationale en parlant de choses un peu plus positives, en rendant hommage à un de nos camarades.
Oui, alors positif, il faut le dire vite, puisque cette semaine, on souhaitait rendre hommage en tout cas à Omar Aziz. C'est un militant anarchiste révolutionnaire syrien. La Syrie qui a justement vu récemment son dictateur Bachar al-Assad tomber. Et le 16 janvier dernier, donc, nous commémorions la mort d'Omar Aziz, décédé il y a 12 ans, en 2013. Omar Aziz, c'était un anarchiste révolutionnaire syrien. Il est connu notamment pour son rôle dans la création des comités locaux de coordination en Syrie. Ce sont des comités qui ont émergé au début de la guerre civile syrienne et qui avaient pour but de remplacer le rôle de l'État. Et Omar Aziz était connu également pour ses écrits prônant l'autogestion. Donc une chose à laquelle, en tant que communistes libertaires, nous sommes très, très attachés. Ce camarade a d'ailleurs fait un petit tour en France, pas loin de chez nous, puisqu'il a étudié l'économie à l'université de Grenoble. Puis il est retourné en Syrie, peu après le déclenchement de la révolution syrienne en 2011. Et il s'est rapidement impliqué donc dans l'organisation de ces comités locaux qui résistaient au gouvernement de Bachar al-Assad. En novembre 2011, il a publié un projet d'auto-organisation intitulé « La formation des conseils locaux », où il s'inspire des idées notamment de Rosa Luxembourg sur l'auto-gouvernement des masses. Il pensait qu'une révolution sociale pouvait être enclenchée en Syrie en construisant au fur et à mesure des communes autonomes, autogérées et reliées entre elles par un réseau de coopération et d'entraide remplaçant l'État. Le 20 novembre 2012, Omar Aziz est arrêté à son domicile à Medzé, par des membres de la direction du renseignement de l'armée de l'air, et avant sa mort, il compare les comités locaux qu'il a aidé à créer à la Commune de Paris, lui qui a fait ses études en France. « Nous avons fait mieux que la Commune de Paris », dit-il, qui a résisté 70 jours. « Nous, cela fait un an et demi que nous tenons toujours ». Il est détenu donc depuis son arrestation à la prison de Medzé jusqu'au 12 février 2013, date à laquelle il est transféré à la prison d'Adra. Et selon un témoin présent dans la prison, son état physique s'était déjà grandement détérioré. Il est décédé 4 jours plus tard, le 16 février, peu de temps après avoir été envoyé en soins à l'hôpital militaire d'Arasta. On imagine donc assez bien ce qui a pu lui arriver en prison. Mais son héritage n'est pas mort avec lui, puisque les conseils locaux qui l'a aidé à créer se sont développés en Syrie entre 2012 et 2016. En 2016, on estimait d'ailleurs à peu près à 400 le nombre de conseils locaux qui prenaient en charge des services essentiels à la population et qui élisaient par consensus leurs représentants, constituant ainsi une alternative donc au pouvoir en place. Les attaques des forces pro-Assad et leurs alliés ciblent les infrastructures sur le territoire des conseils locaux, tels que les hôpitaux, les écoles et même les boulangeries. Le conseil de Daraya, dans lequel Aziz avait été directement impliqué, tombe aux mains des forces pro-Assad dès 2016. Des militants et des militantes ont créé un site internet, rememberomaraziz.net, tout attaché si vous voulez aller y faire un tour. On peut y trouver plusieurs ressources et un texte faisant l'éloge de ce révolutionnaire, un texte qui commence par cette citation. « Si la révolution échoue, ma vie et celle de toute ma génération sera dépourvue de sens. Tout ce dont nous avons rêvé et en quoi nous avons cru n'aura été qu'illusion. » Il est malheureusement décédé avant d'avoir vu le triomphe de la révolution de récolter les fruits de son travail. Les Syriens qui sont aujourd'hui encore en vie, dit le texte, ont une dette énorme envers Omar Aziz et les dizaines de milliers de martyrs syriens. C'est une dette qui ne peut pas être payée par des larmes et des hommages émouvants. Rien d'autre qu'une lutte acharnée pour une Syrie libre ne saura suffire. Le régime est tombé, Assad est parti. C'est une victoire importante pour tous les révolutionnaires, mais surtout pour les révolutionnaires syriens. Plus de 13 ans se sont écoulés depuis les manifestations qui ont secoué la Syrie en 2011, lorsque les premières fissures du régime ont commencé à apparaître. Le régime a essayé de couvrir ces fissures avec des balles et des bombes, mais il ne savait pas que les idées sont à l'épreuve des balles. Aujourd'hui, ces fissures sont béantes. Aujourd'hui, ces fissures ont fait tomber les murs des prisons du régime. Aujourd'hui, nous sommes les témoins d'une nouvelle Syrie. Voilà donc ce que dit le texte. Et il continue en expliquant que ce devrait être une période de joie, de célébration, mais c'est aussi un moment d'action. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons aller plus loin. Les forces autoritaires sont déjà en train de grimper les échelons du pouvoir, dans le but de se couronner comme nouveaux dirigeants. La révolution n'est pas terminée. Ce n'est que le début. Ce n'est qu'un nouveau départ. Un nouveau départ nécessite également une nouvelle feuille de route, une nouvelle direction pour continuer à aller de l'avant. Nous voulons avancer ensemble. Pour cela, nous devons d'abord nous retrouver, nous reconnaître, nous orienter dans ces nouvelles coordonnées. Frères, sœurs, amis, camarades, marchons ensemble. Le chemin qui nous attend est difficile, mais aujourd'hui, célébrons nos victoires. Et faisons-le en mémoire de ceux qui ne peuvent pas célébrer avec nous, car c'est aussi grâce à leur sacrifice, grâce à leur lutte, que nous sommes ici aujourd'hui. C'est un appel à la mémoire, un appel à la lutte. Omar Aziz a été une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous et son héritage reste toujours vivant. Ce 16 février, à l'occasion du 12e anniversaire de sa mort, dans les prisons brutales du régime, célébrons la vie, célébrons la révolution et luttons parce que rien de moins qu'une lutte acharnée pour la Syrie ne suffira. Voilà donc ce que disent les militantes et les militants qui commémorent cette semaine la mort d'Omar Aziz, lui qui a laissé un héritage si important dans la lutte contre les gouvernements autoritaires de Bachar al-Assad en Syrie.
Ben justement, on va faire une dernière pause musicale dans cette émission Idées Noires en hommage à Omar Aziz avant de terminer l'émission par deux petites brèves sociales et rappeler les rendez-vous du week-end. On va retrouver Mama Béa qui pour Omar Aziz mais comme pour tous les autres militants anarchistes d'hier et d'aujourd'hui nous reprend ce fameux morceau de Léo Ferré en hommage donc à Omar Aziz sur ce 102.2 de Radio Canu.
Il y en a pas sous ça. Existe la plupart espagnole allez savoir pourquoi faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas les anarchistes ils ont tout ramassé des peignes et des pavés ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme tout rongée par de foutues idées. Y'en a pas un sur cent. Et pourtant ils existent. La plupart fils de rien.
anarchiste. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien. Avec l'air entêté qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie. Dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Tu en as pas un sur cent, et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça.
Voilà, c'est avec cette reprise de Léo Ferré par Mama Béa, Les Anarchistes, en hommage aux anarchistes d'hier et d'aujourd'hui, qu'on termine cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. On voulait juste vous rappeler, avant de se séparer, que on voulait signaler quand même que jeudi dernier, le 16 janvier dernier, il y a eu une grève nationale des AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap et puis des assistants d'éducation, les deux qui, dans cette longue période d'instabilité politique, peinent à faire avancer leurs revendications pour sortir de la précarité dans laquelle ils sont maintenus, malgré quelques petites victoires sur lesquelles on reviendra. C'était à l'appel de plusieurs syndicats de l'éducation. Il y a eu des rassemblements partout en France, notamment jeudi dernier matin devant le rectorat de Lyon. Et puis on voulait aussi vous faire part d'un appel à la solidarité lancé par la CNTSO, une campagne de solidarité contre un de leurs camarades qui a reçu la notification de payer plus de 12 000 euros de dommages et intérêts à un policier, plus de 5 ans après la répression d'une grève à Marseille, dans la sous-traitance hôtelière au NH Marseille Joliette. Et Walter, ce militant qui s'était retrouvé en garde à vue suite à une bousculade avec la police sur un piquet de grève, se retrouve aujourd'hui à devoir payer plus de 12 000 euros. Et la CNTSO appelle à la solidarité avec ce militant syndicaliste. Allez voir sur le site de la CNTSO ou sur la cagnotte papayou-solidarité.com pour pouvoir contribuer, pour pouvoir le soutenir. On vous en reparlera aussi. C'était les deux petites brèves sociales à laquelle on voulait faire écho. Et puis on termine cette émission Idées Noires en vous rappelant ce samedi le rassemblement de 15 à 17 heures place Bellecour à Lyon, rassemblement Liberté pour la Palestine, qui donc est ce rendez-vous du week-end. Voilà, c'est avec ces dernières petites infos qu'on termine cette émission Idées Noires. On vous rappelle, Idées Noires, c'est tous les mercredis de 20h à 21h sur ce 102.2 de Radio Canu, l'émission du groupe local de l'Union Communiste Libertaire. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition d'Idées Noires. Et puis moi, je vous retrouve juste après notre générique pour la bande-son de nos révoltes.
Allez, bonne semaine et bonne lutte.